Les podcasts du week-end, comme tous les samedis. Votre coup de cœur, Erwan Gaucher, bonjour.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, Erwan, vous nous conseillez un nouveau podcast intitulé « Adieu la France ».
La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Scandé pour la première fois en 1982 par le Front National, le slogan réapparaît très régulièrement dans la vie politique française. Et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui la quittent, en effet? Ceux qui, comme Cédric, ont décidé de partir vivre dans le pays de leurs parents, au Maroc pour lui.
Casablanca.
Moi, j'étais venu pour 1, 2, 3 ans. Alors, c'est marrant parce que tu sais, les parents qui sont partis immigrer en France dans les années 60, 70, etc., leur rêve, c'était de repartir au bled pour leur retraite. Et moi, là, je sais que je finirai pas ma vie au Maroc, par contre, tu vois. Même si je finis le reste de ma carrière ici, je repartirai à Bordeaux auprès des miens. Heureux qui communie, ça fait un beau voyage et tout ça. Quoi.
Avec Adieu la France, un podcast en 8 épisodes, David Comélias nous plonge dans l'aventure de ceux qui sont nés en France mais qui décident de tenter leur chance à Casablanca, à Dakar, à Istanbul ou Lisbonne. Ils sont 4 à témoigner à son micro, ils sont profs, producteurs de musique, chercheurs ou entrepreneurs et tous font cet étrange voyage à rebours de l'immigration de leurs parents.
Ça fait plus d'un siècle que travailleurs arabes et ouvriers berbères arrivent du port de Tanger, des montagnes de l'Atlas ou du désert saharien. Les Marocains, franco-marocains ou français d'origine marocaine sont 3 millions à habiter la France aujourd'hui. Première minorité du pays avec les Algériens. Parmi eux, la famille Ralfi a posé ses bagages en Gironde pendant la troisième vague d'immigration des années 70.
30 ans plus tard, Cédric est donc parti vivre à Casablanca où il est devenu journaliste et prof. Ce qu'il enseigne là-bas, l'histoire et la géographie du pays qu'il a quitté.
C'est vrai que c'est ironique. Après, j'ai pas le choix, je vais pas enseigner l'histoire géographie marocaine, je la connais pas. Mes parents, effectivement, avaient envie de nous transmettre leur langue, donc ils nous parlaient en darija, en maghrébin, mais on ne sait pas répondre. Et d'ailleurs, il a fallu que j'attende mes 24 ans pour que je vienne vivre au Maroc pour pouvoir, je dis, lâcher ma langue, tu vois, me permettre d'essayer de parler en darija sans avoir peur qu'on se foute de ma gueule.
Adieu à la France donc, Erwan, c'est l'histoire intime de celles et ceux qui ont décidé de vivre l'immigration à contresens, si on peut s'autoriser l'expression. Et on les entend pas si souvent.
Exactement, Ali. Et comme Cédric, ils expliquent ce qui les a motivés à quitter le pays où ils sont nés.
Une fois, il y a un chasseur de tête, vu les besoins de recrutement qu'il y avait, qui m'appelle, etc. Et il me dit, monsieur, écoutez, j'ai pas d'autres profils à présenter à part vous. Mais je suis obligé de présenter d'autres profils. Donc je vais présenter une demoiselle qui n'a même pas son bac. Et de toute façon, c'est sûr, vu vos résultats au test, vu votre CV, c'est vous qui allez être pris. Et finalement, bah, figure-toi que c'est la fille qui a été prise. Et ça, ça a été vraiment la goutte d'eau qui m'a, pas que, hein, mais qui m'a entre autres fait quitter la France. Ouais.
Au Maroc, de nouveaux horizons vont s'ouvrir à Cédric, qui deviendra journaliste et couvrira l'effervescence du printemps arabe à la radio. Mais il n'idéalise pas pour autant ce voyage dans l'autre sens.
Les immigrés de première génération des années 60, 70 et 80, ils sont partis avec un pays dans la tête. Ils ont continué à le vivre à leur manière en France. La société marocaine, la société algérienne, la société tunisienne, elle a continué à évoluer, elle n'a pas attendu qu'ils reviennent. Donc du coup, on se retrouve avec des coutumes ou des traditions ou des manières de faire qui sont un petit peu vieillottes. J'ai trouvé beaucoup d'incompréhension au Maroc. Les gens me disaient, bah, on comprend pas, t'as des papiers européens et tu vis pas en Europe. ça va la tête.
La France, tu l'aimes ou tu la quittes? Comme c'est dit qu'ils sont un certain nombre à avoir joliment détourné le slogan. La France, ils l'aiment, ils l'ont quitté, ils y reviendront peut-être. Et c'est passionnant à écouter.
Et comme dit Cédric, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, Erwan. Donc c'est Adieu la France, une série de 8 épisodes qui sont produits par Sonic et qu'on peut découvrir sur l'application Radio France. C'était les podcasts du week-end. Merci Erwan Gaucher.
Merci.
France Inter. Ali Badou. Le 6-9.
6h20 sur Inter. Interdiction totale de fumer. Le Royaume-Uni veut instaurer une mesure radicale anti-tabac. Le Tobacco and Vapes Bill, comprenez le projet de loi tabac et vape, a été voté cette semaine à la Chambre des communes à une très très large majorité. Le but de ce texte, interdire tout simplement l'achat de cigarettes aux personnes qui sont nées après 2009 et pour le reste de leur vie, ce serait une première mondiale. Une génération sans tabac et la France dans tout ça. Bonjour Loïc Josserand.
Bonjour Ali Badou.
Merci d'être l'invité d'Inter. Vous êtes président de l'Alliance contre le tabac, médecin, chercheur en santé publique. Beaucoup ont été surpris de voir cette décision, ou en tout cas ce texte présenté par un gouvernement conservateur, celui de Rishi Sunak au Royaume-Uni. Vous pas?
Non,
Non. C'est une mesure que nous portons déjà en France depuis les élections présidentielles de 2022 où nous avions fait le tour des différentes écuries, si je peux employer ce terme-là.
Des candidats.
Et très sincèrement, à cette occasion-là, on nous a gentiment rigolé au nez. Mais c'est une mesure qui a été proposée...
Les candidats vous ont ri.
Ah bien sûr, les équipes ne nous ont pas pris au sérieux, évidemment. Oui. Mais on voit aujourd'hui que... avec un courage politique fort pour lutter contre le tabac et rentrer véritablement dans un contrôle du tabac qui soit efficace, les Anglais prennent les choses de façon très sérieuse. Et cette décommercialisation, parce qu'en réalité, nom de cette mesure, c'est la décommercialisation du tabac, qui vise effectivement, comme vous le disiez, à interdire l'achat aux mineurs, mais qui vont devenir adultes.
C'est-à-dire... Oui, c'est ça qui est intéressant dans le projet, et c'est ce qui n'est pas forcément facile à comprendre. Expliquez-nous, Loïc Josserand, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont nées ou qui résident au Royaume-Uni, donc nées après le 1er janvier 2009, qui vont avoir 15 ans, ou qui ont eu 15 ans en 2023, que leur arrive-t-il ?
Ces jeunes-là, une fois qu'ils vont passer cet âge-là, n'auront plus le droit d'acheter du tabac de leur vie entière. Et tous les ans, on va reculer d'un an. C'est une mesure qui peut paraître effectivement dure et violente, mais c'est une mesure qui n'est que la prolongation naturelle de l'application stricte de l'interdiction de vente aux mineurs. Parce que si cette règle était suivie et appliquée en France, par exemple, où je le rappelle, les deux tiers des buralistes en France continuent à vendre du tabac aux mineurs alors même qu'ils agissent au nom de l'État quand ils vendent du tabac.
Mais ça, à la limite, on peut dire que c'est un problème d'application de la loi, de contrôle des points de vente de tabac.
Tout à fait. Et si on appliquait réellement c'est déjà un problème de responsabilité du vendeur. C'est pas seulement s'il faut juste la sanction pour appliquer la loi, c'est un peu dommage, surtout quand on est censé représenter l'État. Donc si on avait réellement cette application, on n'aurait pas besoin de parler de telles mesures, puisque arrivé à 18 ans, on ne fumerait pas, nos amis autour de nous ne fumeraient pas, et donc on n'aurait absolument pas envie de consommer un produit qui va réellement vous pourrir la vie.
En vérité, oui, au sens strict. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est vrai que c'est une tradition libérale en général qui anime les gouvernements conservateurs en Grande-Bretagne, et que là, pour le coup, c'est une mesure qui va contre la philosophie libertarienne qui est défendue par les Tories. Mais une telle loi, donc, pour vous, serait possible en France. En 2022, vous êtes allé voir les candidats. Oui. Ils vous ont ri au nez. Oui. On est 2 ans après.
Oui.
Là, pour le coup, vous pensez que l'opinion et les candidats seraient prêts ?
L'opinion et les candidats, l'opinion est déjà prête. Il suffit simplement d'interroger les Français, ce que nous faisons régulièrement.
Oui.
Et ils veulent véritablement se débarrasser du tabac. Ils veulent véritablement une génération sans tabac. Parce que je pense que les Français ont bien compris les méfaits que représentait l'industrie du tabac. Vous savez, les Anglais ont en réalité simplement bien compris que le tabac, ça n'est pas un gain fiscal, c'est une perte systématique.
Alors ça, justement, souvent on fait le calcul coût-bénéfice quand on parle du tabac de manière totalement cynique et uniquement d'un point de vue comptable, le tabac coûte plus cher qu'il ne rapporte,
tout simplement.
Le tabac coûte
plus cher. Le tabac rapporte de l'ordre de 16 milliards d'euros à l'économie française. Il lui en coûte tous les ans 155 milliards d'euros. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres officiels du ministère de la Santé, de l'OFDT. 155 milliards d'euros. Donc les 10 milliards d'euros d'économie qu'on veut faire, on peut facilement les trouver. Il suffit simplement de lutter efficacement contre ce produit, et nous allégerions les finances de la France de 155 milliards d'euros par an.
Loïc Josserand, est-ce qu'il y a une tendance aujourd'hui, une tendance de fond, les Français fument moins que leurs aînés ?
Les Français fument un peu moins que leurs aînés, les jeunes fument moins aussi que les précédentes générations. On est passé en dessous, pour la première fois en 2022, en dessous de la barre des 50% d'initiation au tabac chez les 17 ans et moins. Donc c'est aussi pour ça que ces mêmes buralistes veulent absolument continuer à vendre aux plus jeunes pour s'assurer un marché dans 15, 20 ou 30 ans. Donc ça passe par là. S'ils ne commencent pas à faire fumer les gamins à 15, 14, 15 ans...
Ils perdent leurs clients
dans
10, 20, 30 ans.
Des 20 ou 30 prochaines années. C'est bien pour ça qu'on entend énormément de bêtises, notamment en ce moment sur le marché parallèle, les trafics à hauteur de 40% qui feraient sombrer la France dans une forme de nouvelle criminalité. C'est faux. En France, les chiffres officiels, c'est 5% de marché illicite. Tout le reste est vendu légalement. 80% chez les buralistes, 15% du free et transfrontalier. Donc tout ça n'est qu'une manipulation dans laquelle malheureusement un certain nombre de journalistes se laissent prendre, et également hommes politiques, dont le seul objectif est de casser les lois anti-tabac en France.
Encore un mot, l'industrie du tabac, c'est une industrie paradoxale parce qu'elle tue ses propres consommateurs et elle doit sans cesse renouveler son vivier de fumeurs. Et aujourd'hui, ça passe donc par les puffs, par un certain nombre de produits.
Tout à fait, ça passe par ces nouveaux produits qui arrivent à destination des jeunes et qui créent devant nos yeux un marché de la nicotine qui là cherche à rendre addict les jeunes le plus vite et le plus jeune possible.
Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Loïc Josserand, président de l'Alliance contre le tabac. Bonne journée sans tabac.
Exactement, mais ça c'est le 31 mai, mais je reviendrai avec plaisir si vous voulez.
Ça devrait être tous les jours du coup.
Mais ça devrait être tous les jours de l'année, bien évidemment.
Loïc Josserand.